Un jour, un livre, un auteur. On a pas mal voyagé les semaines dernières. Je ne sais pas si cette semaine vous nous amenez en voyage encore,
Et
Philippe
si.
Denis. Bonjour Philippe Denis et bonjour Diego Rabal.
Bonjour Philippe
Bonjour
Ibercas,
Philippe.
bonjour Diego Rabal.
Ça,
Bonjour Philippe.
c'est quand même bien pratique d'être tranquillement à écouter le poste de radio, confortablement assis, et vous nous amenez dans des contrées lointaines, mais pas pour juste le paysage, mais aussi pour réfléchir. Et ça, c'est votre ADN.
Oui, et on va encore réfléchir aujourd'hui, vous allez voir, avec un très beau recueil de nouvelles, donc avec une auteure qui nous avait accompagnés il y a plusieurs semaines déjà pour son
Oui.
roman Les Étoiles de Tchernobyl.
Oui.
Elle revient aujourd'hui avec un recueil de nouvelles qui se déroule encore et toujours dans cette région du monde marquée par une guerre aussi tragique qu'inique, l'Ukraine. Donc on va
Mais
voyager.
c'est gay après
Eh ouais,
Tchernobyl.
mais non, mais vous allez voir, c'est un recueil de nouvelles, effectivement,
Oui.
qui le titre est pas forcément correspond pas forcément à ce qu'on y trouve à l'intérieur, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. C'est un recueil de nouvelles publié en 2020. Il a été écrit, on va dire, je l'ai ressenti comme ça quand je l'ai lu de manière presque prémonitoire avant le début du conflit qui ensanglante cette partie de l'Europe, même si la guerre était présente là-bas depuis 2014 en Crimée. Ce recueil de nouvelles évoque pêle-mêle des histoires qui semblent n'avoir aucune gravité. Et pourtant, j'ai pris un plaisir certain à goûter les mots écrits par son auteur. J'irai mourir à Odessa, de Viviane Campomar, publié aux éditions Paul et Mike. Voilà un recueil de nouvelles qui mérite qu'on s'y arrête. Un recueil de nouvelles qui a été salué par le jury du prix de la nouvelle d'Angers. Bonjour, Geneviève Campomar.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais lire la quatrième de couverture de votre recueil de nouvelles avant de vous poser ma première question. Voici cette quatrième de couverture. Odessa, ville ukrainienne au bord de la mer Noire, mais surtout ville mythique que les Russes idéalisent depuis toujours. Viviane Campomar s'empare de ce rêve-là pour nous entraîner dans un voyage entre les années 70 et aujourd'hui. Et entre l'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est, Paris et une Odessa résolument contemporaine. Une Odessa entre réel et imaginaire, au cœur d'un tourbillon de danse, de musique, de poésie, de peinture. Dans ces sept nouvelles, l'autrice pose un regard amusé sur une galerie de personnages savoureux qui se jouent de la réalité et sur les petits travers de société prises dans la folie de l'histoire. Pourquoi être resté en Ukraine pour écrire ce recueil de nouvelles, Viviane
Alors,
Campomar?
ce n'est pas tout à fait l'Ukraine. Il y a l'Ukraine dans la nouvelle J'irai mourir à Odessa, bien sûr, mais sinon il y a la Russie et la Russie soviétique. Il y a même un petit voyage dans le temps. Il y a quelques nouvelles au début qui se passent dans la Russie soviétique. Hein, donc oui, ça reste dans ces pays de l'Est. Écoutez, c'est en même temps une sorte d'hommage à ces Russes, alors pas tous évidemment, mais à certains qui n'ont pas la chance de connaître une démocratie et qui essayent de se battre quand même pour survivre, voilà.
Alors, c'est vrai que ce recueil de nouvelles, déjà, on va parler, on est à la radio, hein, on va parler déjà de l'objet livre. Il y a une couverture qui est magnifique, qui est vraiment très très belle. Ce sont sept nouvelles, hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc qui se déroulent effectivement dans différents lieux. C'est vrai que quand on voit le titre, on se dit que ça va être sept nouvelles qui vont être dans le contexte de la guerre actuelle. Et en fait, non, vous avez par exemple une nouvelle qui se déroule donc au moment des Jeux Olympiques de Moscou en 1980, donc où on voit que la guerre en Afghanistan donc mobilise des jeunes. Et ce qui est très bien, je trouve, dans ces nouvelles-là, c'est que vous nous renvoyez, alors pour ceux qui ont connu cette époque, hein, c'est mon cas, c'est le cas de Diego Arrabal, de Philippe Subercase, de tous ceux hein, qui ont plus de 50 ans, qui se souviennent de cette époque. C'est un moment effectivement très particulier parce que vous mélangez des personnages réels, notamment un gymnaste soviétique, parce que quand j'ai vu le nom, ça me disait rien, j'ai cherché sur Internet en me disant, mais est-ce qu'il a réellement existé? Il a réellement existé. Et vous mélangez très habilement les personnages réels avec une histoire de fiction. Pourquoi avoir choisi de faire ça, d'avoir pris des personnages réels et de les avoir mélangés avec de la fiction?
C'était pour les ancrer un petit peu dans une réalité qui a existé, en fait. Pour les ancrer dans le contexte. Et après, effectivement, le choix de la fiction, c'est pour le plaisir d'écrire une histoire, une ambiance, c'est pour créer une atmosphère, en fait.
Alors, ce qui est particulier dans votre écriture, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez une écriture très visuelle. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette affirmation. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que vous êtes un peu une cinéaste des mots. C'est-à-dire que quand vous écrivez, on voit les personnages qui évoluent. En tous les cas, moi, quand j'avais lu votre premier roman, ça m'avait déjà fait cette sensation. En lisant ce recueil de nouvelles, j'ai eu exactement les mêmes sensations, à savoir que j'avais l'impression de voir un film se dérouler devant moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion qu'à un moment donné, vous tentez de donner des images visuelles au lecteur ou à la lectrice que vous allez avoir en face de vous ?
Oui, je pense que c'est assez juste, et particulièrement dans la nouvelle La ballerine de l'escalier Potemkin, où j'essaye de donner à voir la danse, en fait. C'était pas, cette nouvelle-là était un défi, parce que je parlais de danse, d'un ballet, d'une création d'un ballet, donc il fallait que ce soit le plus visuel possible.
Et alors, c'est vrai pour cette nouvelle, hein, mais c'est vrai pour toutes les nouvelles, hein, par contre. Hein, pour l'ensemble des nouvelles que vous avez écrites, hein, les 7 nouvelles qu'il y a dans ce recueil de nouvelles, on les dévore, littéralement. C'est pour ça que je ne suis pas du tout étonné que vous ayez été récompensé par le prix de la Nouvelle d'Angers. Hein, je le rappelle, qui est quand même un prix très disputé. Donc où les gens effectivement qui se présentent sont des gens qui sont quand même des personnes qui savent très bien écrire la nouvelle. Et ça m'amène à une des questions que j'avais. On vous a reçu pour un roman et là vous êtes passé à un recueil de nouvelles. Qu'est-ce qui vous a amené, Viviane Campomard, à passer du roman à un recueil de nouvelles ?
Je corrigerai un tout petit peu. Les Étoiles de Tchernobyl, c'est un roman très très bref. C'est presque comme une longue nouvelle. Hein. Donc,
c'est une novella, ouais, comme on dit. Ouais, ouais.
Voilà, c'est quand même très très bref. J'aime énormément la nouvelle, en fait. J'ai toujours écrit des nouvelles. J'aime beaucoup la nouvelle dans ce qu'elle a de bref et cette façon qu'il y a d'écrire. C'est-à-dire il faut dire quelque chose, il faut donner une atmosphère très très vite. Faut plonger les gens dans l'atmosphère très rapidement et puis bon, une chute ou pas une chute, peu importe, mais une sorte d'ambiance, quoi. C'est surtout l'atmosphère d'une nouvelle qui est très très intéressante et c'est peut-être pour ça que j'aime énormément ce genre littéraire. J'ai toujours écrit des nouvelles et c'est vrai que j'aime bien écrire des recueils, c'est-à-dire avec une cohérence entre les nouvelles, en fait. Un thème, un fil rouge qui passe d'une nouvelle à l'autre. Et là, et effectivement, dans J'irai mourir à Odessa, il y a ce fil rouge qui est la Russie, l'Ukraine, les pays de l'Est, puisqu'il y en a même une qui se passe en DDR-RDA, en fait. Donc j'aime bien la tonalité des nouvelles.
Alors, vous aimez effectivement cette tonalité de nouvelles. On sent bien, hein, très fortement ce fil rouge. Moi, ce que j'apprécie dans chacune de vos nouvelles, c'est que je prendrai cette image. À chaque fois qu'on commence à lire, et j'avais éprouvé ça dans le premier roman, dans la première novella que vous avez écrite, c'est que dès les premiers mots, j'ai l'impression que j'arrive au bord d'un lac. Je me penche au-dessus du lac pour voir ce qui se passe sous l'eau parce que je vois que ça bouge un peu. Et il y a une main qui sort de l'eau et qui m'entraîne sous l'eau et qui me garde en apnée jusqu'à la fin de la nouvelle.
C'est la fée Viviane, alors.
C'est la fée Viviane, oui, comme me dit Diego Arrabal. Est-ce que c'est votre volonté à un moment donné ? Parce que moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu à chaque fois que j'ai lu vos écrits. C'est le deuxième écrit que je lis de votre part. C'est cette capacité très rapidement à nous prendre, à nous entraîner sous l'eau, à nous garder en apnée jusqu'à la fin de la nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lâcher la nouvelle dès qu'on a commencé.
Ah bah tant mieux. Mais c'est vrai que je... Généralement, j'écris chaque nouvelle ou chaque petit roman de façon très intimiste, de manière à ce que le lecteur soit au plus près de l'intimité des personnages. Et donc, je pense que on a comme ça une petite tranche de vie, mais au plus près, des personnages, et donc en étant très très proche d'eux, quoi. Je pense que c'est ça que j'essaye de faire. Donc tant mieux si j'y parviens à peu près.
Alors vous y parvenez même très bien, hein, je dirais même pas à peu près. Hein. Je vais lire un extrait, c'est en page 26 et 27, donc c'est la nouvelle Balade nocturne. C'est peut-être celle que j'ai préférée. Donc je vous parlais tout à l'heure justement de cet athlète soviétique, hein, Alexandre Dityatin. Au départ, je me demandais s'il existait ou pas, ou si c'était un nom d'emprunt. C'est pour ça que j'ai aussitôt fait des recherches. Je ne suis pas persuadé que tous les lecteurs et les lectrices l'auraient fait. Et puis j'ai découvert en fait que cette personne existait, puis que ça a été un véritable demi-dieu. Et je vais lire vos mots. Et j'avoue que j'ai adoré cette nouvelle. Dans les instituts de Leningrad, Alexandre Dityatin faisait figure de demi-dieu. L'enfant de la ville avait remporté 8 médailles en gymnastique, du jamais vu dans des Jeux olympiques. Des photographies de lui furent placardées un peu partout, devant lesquelles nous nous pâmions toutes. Amoureuse de lui à l'instar des autres étudiantes, je l'ai vite détesté pour les leçons de morale que nous subissions en son nom. Dans l'année qui a suivi ses succès éclatants, on se référait à lui à tout va, le modèle absolu. Si l'un de nous n'obtenait que des résultats moyens, on le convoquait. Dityatin s'était donné les moyens de réussir, lui. Elle me fatiguait, cette obsession de l'excellence, cette compétition constante entre nous. Les filles étaient encouragées dans la voie des sciences, notre nation à l'avant-garde du féminisme. Et je me donnais à fond pour ne décevoir ni famille, ni professeur. Après sa terrible blessure au cours d'un entraînement qui a mis subitement fin à sa carrière, Dityatin n'a plus jamais servi d'exemple. Ses photos ont été décrochées des couloirs universitaires. Son nom n'a plus été prononcé. Peut-être n'avait-il jamais existé. En 1982, un grand nombre d'appelés avaient déjà été envoyés sur le front afghan. Ils partaient dans un climat de triomphe et d'orgueil patriotique auquel nous voulions croire. Les journaux télévisés, les magazines leur consacraient des reportages colorés, nos héros sélectionnés pour leur bravoure. En revanche, personne n'évoquait jamais le front. Cette guerre ne se limitait qu'au départ. Des bruits commençaient à circuler à propos de familles muettes dont les fils de 20 ans rentraient dans des caissons. Une inquiétude sourde gagnait les maisonnées de jeunes garçons encore célibataires, le plus souvent sans diplôme et sans soutien haut placé. Mon frère était alors camionneur, un profil idéal pour conduire des chars, et mon petit ami, futur ingénieur chimiste, avait la formation parfaite pour la fabrication des explosifs. Voilà, j'ai littéralement adoré cette nouvelle. C'est vraiment celle que j'ai préférée, Viviane Campomar, parce que vous mêlez très habilement là deux événements. Donc le fait qu'à un moment donné, on prenait ces athlètes soviétiques pour les ériger en modèle et on s'en servait effectivement pour donner des leçons de morale et dire qu'il fallait effectivement que ces gens-là réussissent, et il y avait tout le temps. Dans ces Jeux olympiques, on sentait bien la concurrence entre la beauté du communisme et la lutte entre le communisme et le capitalisme. Et puis, aussitôt après cette phrase, peut-être n'avait-il jamais existé. C'est là que j'ai cherché à savoir si je me suis dit, mais il a réellement existé ou pas. Je ne savais plus si j'étais entre la fiction et la réalité. Et je trouve que c'est là que vous avez une très, très grande habileté. Et puis derrière, vous embrayez aussitôt sur cette guerre d'Afghanistan qui se déroulait pendant les Jeux olympiques de Moscou. Et donc, du coup, j'ai fait des recherches. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce que vous écrivez, c'est que vous nous invitez indirectement à revenir sur l'histoire qui s'est déroulée donc à cette époque-là, sur le boycott qu'il y avait eu de certains pays ou de certains athlètes, donc au niveau des Jeux olympiques de 1980. Et je trouve que cette nouvelle, indirectement, elle fait référence au conflit qu'il y a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu...
Complètement, oui.
Voilà. Est-ce que ça a été une volonté de votre part ? Parce que c'est ce que j'ai ressenti, moi, en lisant cette nouvelle. Je me suis dit, elle veut faire un parallèle entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'était une volonté, ça ?
Pas du tout, parce que Le recueil a eu le prix de la Nouvelle d'Angers en 2020, en novembre 2020. Donc en novembre 2020, il n'y avait pas encore le conflit avec l'Ukraine.
Alors, donc, il y avait le conflit en Crimée déjà. Il y avait le conflit en Crimée qui avait commencé en 2014.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'était pas. Alors peut-être c'était inconscient de ma part, prémonitoire certainement, mais totalement inconscient. Non, je crois que je voulais montrer l'absurdité totale de ce genre de guerre. Et malheureusement, j'avais totalement raison, parce que je crois que le passage que vous avez lu, on pourrait changer l'année, changer le nom Exactement. De guerre d'Afghanistan et mettre ça en Ukraine. Et le texte serait parfaitement d'actualité.
Ah, alors c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ce que vous dites, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, ces lignes, on les prend, on les transfère de 1982 à 2024, il n'y a rien à changer.
Exactement. Voilà. C'est sans doute prémonitoire, mais c'est prémonitoire. Enfin, je pense que c'est cette ambiance générale et cette absurdité totale des guerres aussi que j'ai voulu raconter un petit peu dans cette nouvelle.
Alors, je rappelle le titre, hein, « J'irai mourir à Odessa », donc un recueil de nouvelles de Viviane Campomar, publié aux éditions Paul et Mike, qui a obtenu donc le prix de la Nouvelle d'Angers, hein, qui est quand même un prix extrêmement disputé. Hein, ce n'est pas un petit prix littéraire, loin s'en faut, hein, au niveau des recueils de nouvelles. C'est vrai que je me suis demandé, en lisant votre livre, s'il y avait une prémonition ou si c'était le réel. Et donc, avant même, comme j'ai commencé la lecture rapidement, j'ai regardé quelle était l'année de publication, ce que vous disiez à l'instant, à savoir 2020. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, ce qu'elle écrit, c'est ce qui se passe actuellement. Et est-ce que vous pensez que le rôle de l'écriture, c'est aussi quelque part le rôle d'un écrivain, c'est aussi d'essayer de percevoir l'air du temps et de parler de ce qui risque d'arriver ?
Alors, je ne sais pas si c'est le rôle, mais je pense que intuitivement on peut le faire. Effectivement, je pense que c'est plus du domaine de l'intuition, de quelque chose d'invisible, en fait. Je crois que quand on écrit des textes, on est habité par quelque chose d'assez peu tangible et invisible. Et oui, si on peut essayer de restituer ce qui se passe, oui, c'est une bonne idée.
Ça, je trouve que... Et en tout cas, c'est le sentiment que vous donnez. Moi, c'est le sentiment... Alors, c'est vrai que je pense que l'écriture nous échappe, hein, quand on publie quelque chose. C'est-à-dire, il y a ce qu'on a voulu dire, et puis il y a ce que les autres vont comprendre. Et puis, il y a peut-être ce qu'on a voulu dire inconsciemment, et puis que les autres sont capables d'arriver à comprendre. Et moi, c'est vraiment le sentiment que ça m'a donné lorsque j'ai lu, effectivement, donc, votre recueil de nouvelles. Hein, « J'irai mourir à Odessa », donc après le premier roman pardon, que j'avais lu de vous, donc « Les étoiles de Tchernobyl ». Et je dois avouer donc, que c'était vraiment... j'ai vraiment énormément apprécié. Je vais lire un autre extrait. C'est en tout début donc, du recueil, c'est le « Domovoï ». C'est en page 11. Je vais lire le début pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité, dès que vous commencez une nouvelle, à nous entraîner effectivement donc, dans la nouvelle, c'est-à-dire à nous mettre en amener et à ne pas nous lâcher jusqu'à ce qu'on ait fini cette nouvelle. Alyosha avait enfin accepté que nous partions en voyage de noces. Il était temps. Cela faisait 2 ans que nous étions mariés. Si nous attendions encore 2 ans, nous serions bloqués à cause des Jeux Olympiques. Moscou s'y préparait déjà avec fébrilité et incitait tous les moscovites à l'euphorie. Les petites broches avec des Mishkas 1980 représentant l'ours dévot accrochés au cercle des Jeux étaient déjà en vente dans les kiosques à la place de nos Tarabulba et de nos Douraks, nos idiots traditionnels. Le gouvernement envoyait dans tout le pays des messages subliminaux d'apaisement. Fallait-il s'en méfier ou y prêter une oreille indulgente ? Avec le monde occidental qui braquait sur nous un regard optimiste et bienveillant, notre Soyouz lustrait son image. En quoi nous avons pu obtenir notre autorisation de déplacement sans aucune difficulté. Pour Odessa, c'était encore raté. J'aurais bien aimé. Mais Alyosha m'avait fait comprendre que j'étais trop exigeante. Qu'à demander l'ours, je n'aurais que la peau. Je crois plutôt qu'il n'avait pas envie d'entreprendre un trajet en train de plus de 24 heures. Il est un peu trouillard et casanier. Si je n'avais pas insisté, nous aurions continué à arpenter la campagne aux alentours de Moscou, les bois, la plaine, les collines, avec nos skis sur les épaules l'hiver, le monastère de Zagorsk dès le printemps, où l'air de rien, Alyosha ferme les yeux pour une petite prière et adresse des signes de connivence au pop gardien du lieu. « Sait-on si ça ne va pas servir un jour ?» se justifie Alyosha. Il a fini par écouter un collègue qui lui conseillait la région de Kalouga, à 300 km de Moscou, avec ses datchas bon marché au seuil des forêts de bouleaux. « Tu verras, » l'a instruit le collègue en juillet, « les jardins foisonnent de framboisiers, de cassis et de groseilliers. » Nous n'en sommes pourtant pas privés des yagoudis, ces baignoires rouges blanches que vendent les vieilles babas mal fagotées à chaque coin de rue de Moscou. C'est bien une des rares denrées abondantes en été. Et voilà, Kalouga. De la ville, nous avons pris un car pour Yakoris. Et notre présence éveilla la curiosité de tous les voyageurs. Des babouchkas fichus pour l'essentiel. Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Personne ne s'y rend jamais à part Frotifota. Ah, rendre visite à sa sainte lignée. C'est un vrai trou. Pourquoi choisir Yakot pour des vacances? Je percevais une certaine hostilité, ou plus exactement, une disposition de toutes ces grands-mères à se replier sur leur monde très fermé. Nous, les moscovites, ne faisions pas partie de leur Russie. Et vous allez loger chez qui? Dans une maison que Konstantin Pavlovitch nous loue. Konstantin Pavlovitch? Jamais entendu parler. Les babouchkas se mirent alors à zonzonner, à s'agiter, à échafauder entre elles de multiples hypothèses sur cet individu possédant voiture et datcha. Je crus bon de rajouter que le logement se situait en pleine nature, à 5 km du village, et que notre locataire nous y conduirait en voiture. Ce n'est tout de même pas sur la route de la Poliana, s'inquiéta l'une des grand-mères. Si, justement. C'est bien sur la route de la Poliana, confirma Alyosha en toute innocence. Il ne percevait rien de l'animosité croissante à notre égard. Je voulais lire ce passage, Viviane Campomar, parce que je trouve qu'il illustre très bien cette capacité dont je parlais tout à l'heure. Quand je lis ça, je les vois dans le bus, je les entends, je vois les babouchkas, ces grands-mères soviétiques, effectivement, avec leurs fichus. Vous avez une capacité à écrire. Je me posais la question de savoir si, de temps en temps, vous lisiez des textes à haute voix pour être un peu une conteuse.
J'aime bien quand j'écris, effectivement, quand je suis dans la phase d'élaboration, j'aime bien lire à haute voix, les pages. Ah, tout à fait.
D'accord.
Parce que c'est important. La musique d'un texte est aussi importante. Je travaille beaucoup en lisant à haute voix, oui.
Alors, ouais. C'est vraiment quelque chose que l'on ressent de manière extraordinaire dans votre livre. On sent bien que vous faites un peu comme disait Flaubert, hein, c'est-à-dire le Gaulois dans lequel il gueulait chacune de ses phrases, effectivement, pour travailler la musicalité. Et ce n'est pas le cas de tous les auteurs. Hein. Je ne dis pas ça sur présence, sur tous les auteurs et toutes les auteurs que l'on peut effectivement interviewer. Vous avez cette capacité de conteuse, c'est-à-dire vous lisez à voix haute pour essayer d'entendre, vous, ce que le lecteur et la lectrice vont entendre quand ils vont le lire.
Oui.
Voilà. Et ça, oui. Franchement, on vous reçoit aussi sur présence pour ça, parce que vous avez cette capacité. Je ne sais pas si on vous l'a dit déjà dans les autres interviews que vous avez pu avoir. Vous avez cette capacité, effectivement, à pouvoir nous emmener très loin. Donc, on va continuer à vous suivre, Viviane Campomar, par rapport au texte que vous ne manquerez pas de sortir. Vous avez un projet qui est prévu, là, pour l'avenir?
Alors, j'ai un recueil de nouvelles, mais pour l'instant, qui ne trouve aucun éditeur. Pourtant, c'est en plus sur un thème d'actualité.
D'accord.
Donc, pour l'instant, faut que je cherche encore, mais...
D'accord.
Pour l'instant, je ne trouve personne.
Et les éditions pour les Mike, non, n'ont pas...
Non, n'ont pas voulu, l'ont trouvé trop original, et on dit que le format était trop original, donc bon.
Trop original, d'accord. Bon.
Ce sont des nouvelles, donc bon, tant pis.
D'accord. Eh bien, écoutez, on espère que vous allez trouver un éditeur, et dès que vous avez trouvé ça, et moi je doute pas que vous y parviendrez, vous nous recontactez, vous avez mes coordonnées pour qu'on puisse effectivement suivre votre parcours littéraire, parce que nous ici sur présence, on apprécie énormément effectivement ce que vous faites. Je rappelle le titre de votre recueil de nouvelles, Viviane Campomar, « J'irai mourir à Odessa », un recueil de nouvelles publié chez Paul et Mike. Et pour les auditeurs et les auditrices qui auraient pu cette émission en cours de route, hein, c'est pas un recueil de nouvelles qui se déroule donc actuellement sur ce qui se passe, c'est vraiment sept nouvelles hein, qui se déroulent dans différentes zones donc de l'ancienne Union soviétique. Et c'est vraiment un recueil de nouvelles à lire pour l'été, voilà, parce que on va arriver effectivement aux vacances d'été. C'est un recueil qu'on peut lire partout, sur la plage, et qui fait voyager. Je trouve que moi, c'est un beau visa de voyage que vous nous avez offert, Viviane Campomar. Donc encore merci.
C'est moi qui vous remercie.
On vous souhaite une bonne fin de journée, Viviane Campomar, et ben on attend que vous nous recontactiez dès que vous aurez trouvé donc un éditeur ou une éditrice pour votre pour votre nouvel ouvrage. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur les ondes de présence aujourd'hui.
Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.